Les singes et leurs prodiges. J'ai parlé du singe divin Hanuman, mais Hanuman n'est pas seul dans cette affaire. Il y a trois frères singes, Balin, Sugriva et Hanuman. De façon très extraordinaire, la naissance de ces trois frères singes reproduit le même scénario que la naissance des cinq frères Pandava dans le Mahabharata. Souvenez-vous, chacun des cinq frères Pandava est engendré par un dieu différent, puisque le roi Pandu n'a pas le droit de copuler. Certes, il a le droit, mais le jour où il copule, il meurt. C'est donc sa femme Kunti qui, parce qu'elle en a le pouvoir, convoque, grâce à une formule, les dieux que choisit son mari. Eh bien, le même processus recommence pour la naissance des singes divins. Valin, l'aîné des singes, est le fils d'Indra, roi des dieux, exactement comme Arjuna dans le Mahabharata. Sugriva, le deuxième singe, est le fils de Surya, le soleil, exactement comme le héros Karna dans le Mahabharata. Et Hanuman, celui qui nous intéresse, le dernier, est le fils de Vayu, le dieu du vent, comme Bhima, la force brutale et l'inintelligence dans le Mahabharata. Ça, là, il va y avoir une sacrée différence. Car Bhima, le deuxième des fils de Kunti, dans le Mahabharata, le deuxième Pandava, est un héros aux limites de la bêtise. Assez volontiers idiot, en tout cas très emporté et qui ne se contrôle pas du tout. Hanuman, c'est tout le contraire. Il est la force, mais il est également l'intelligence. La répartition des deux autres fonctions n'a pas beaucoup d'importance. Valin, l'aîné des singes, est roi et joue un rôle mineur. Quant à Sugriva, il est chef des armées des singes. Rappelons que Rama et Lakshmana, les deux princes en exil, sont partis à la recherche de Sita, femme de Rama, belle-sœur de Lakshmana, enlevée par le démon Ravana qui l'a emportée dans son palais dans l'île du Lanka. C'est sur le chemin de cette longue quête que les deux héros divins vont rencontrer les deux singes, non moins divins. Et d'ailleurs, les deux singes ont entre les mains des bijoux de la princesse Sita qui sont tombés des airs pendant son enlèvement. Souvenez-vous, Ravana l'a prise par les cheveux, elle s'est débattue, les bijoux de Sita sont tombés et qui les a ramassés? Les deux singes. Dès que l'alliance est faite entre les héros et les singes, commencent les exploits d'Hanuman, car c'est lui, le héros. D'abord, il a une force tellement prodigieuse qu'il passe des rives de l'actuel Tamil Nadu, en Inde, directement sur l'île du Lanka, l'actuel Sri Lanka, qui fut autrefois Ceylan, en un seul bond. Certes, il est fils du vent, mais tout de même, c'est un bond prodigieux. Il faut dire aussi que non seulement Hanuman est un singe divin, mais c'est un singe dont la proportion peut changer, et donc c'est aussi un singe géant. Là, dans l'île du Lanka, il trouve Sita prisonnière, se débrouille pour pouvoir lui parler en échappant à la surveillance du démon, et annonce à Sita sa libération, et là se produit quelque chose d'assez étrange, c'est que, alors que Hanuman pourrait libérer Sita tout de suite, car enfin il suffirait qu'il la prenne sous son bras et qu'il l'emmène et que du même bond prodigieux, il retourne en Inde et qu'elle retrouve son mari, il lui propose ça d'ailleurs, et Sita noblement refuse. Ça, vous allez voir, l'histoire de Sita et de Rama n'est pas celle qu'on croit.
राम दूत मैं मातु जानकी राम दूत मैं सत सपत करुणा निधान की हम जिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कह सही रानी।
Sita donc, en bonne princesse et en bonne héroïne très vertueuse, décide que non, c'est pas à un singe de la délivrer, mais que son mari héroïque doit venir la délivrer en personne. Et donc, la libération de Sita se trouvera différée. Au passage, Sita précise qu'il ne suffit pas que son mari la délivre, il faut aussi qu'il assure la plus complète victoire sur le démon. Hanuman fait donc le service minimum, mais pour bien marquer l'esprit de l'ennemi, il incendie la ville de Ravana, la capitale du royaume du Lanka, pour donner un signe, et pas n'importe lequel, de sa présence. On remarque toutefois qu'en incendiant la ville, il évite un palais, et un seul. C'est le palais du frère de Ravana. Il se trouve que celui-là est un bon rakshasa, c'est-à-dire un bon mangeur d'hommes. Et oui, ça arrive, il y a des bons cannibales et des mauvais. Il se trouve que Ravana et sa sœur sont de mauvais mangeurs d'hommes, et il se trouve que Vibhisana, leur frère, est un bon cannibale. Il faut dire aussi qu'il a une idée en tête, celui-là. En se rangeant du côté du prince Rama, tout de suite, il se dit que c'est lui qui succédera à Ravana après la défaite. Et en effet, ça n'est pas un mauvais calcul. Ayant incendié la ville, Hanuman repart d'un même bond, sans Sita, et va rendre compte aux deux frères de sa mission. Il n'y a plus d'autre solution qu'une bataille. Cette bataille n'a pas l'ampleur énorme du Mahabharata, puisque quasiment les 90 000 vers du Mahabharata sont consacrés aux préparatifs de la bataille, à la bataille elle-même, et à la fin de la bataille et à l'après-bataille. Non, là c'est tout différent. La bataille ne tient que peu de place dans le Ramayana, mais tout de même, elle en est l'un des épisodes principaux. Il se passe comme dans le livre de la jungle, lorsque Kaa massacre le banc d'Arlog, un immense massacre de singes. Sauf que ce sont des singes divins vertueux. Ils n'en sont pas moins massacrés. Il y a autant de singes qui tombent morts dans cette bataille qu'il y a d'hommes qui tombent morts dans le Mahabharata. Et c'est ainsi qu'à la fin de la bataille, Ravana meurt lui aussi dans un incendie destructeur. Mais ça n'est pas indifférent, car Ravana est un brahmane. Et c'est un point sur lequel la plupart des Indiens insistent énormément. Toute la difficulté pour le prince Ram, c'est qu'il est d'une caste de guerriers inférieure à celle de son assaillant. Il est d'une caste inférieure, car le brahmane lui est supérieur. Et Ravana est un brahmane. Il a beau être un méchant, c'est un brahmane. Or, dans l'âne classique, le brahmanicide est strictement interdit. C'est donc un enjeu phénoménal pour un guerrier comme Rama d'arriver à mettre à mort un brahmane. En réalité, il n'y a qu'une seule solution, et nous avons déjà vu cet épisode avec la mort de Drona sur le champ de bataille du Mahabharata. Drona est également un brahmane, c'est le maître d'armes des Pandavas. Il faut que le brahmane consente à sa propre mort. Sans cela, toute personne qui le tuera se rendra coupable d'un crime puni de mort. Ça n'est pas simple comme situation. Il faut donc cerner l'ennemi brahmane cannibale, et l'obliger à se suicider. Là, Ravana mort dans un incendie, la chose se passe relativement bien. Chaque année, dans le nord de l'Inde, se déroule la fête de Dussehra. Sur les places publiques, ou dans des grandes prairies, ou sur des petites places d'ailleurs. Et moi j'ai surtout vu ça dans des grandes, l'équivalent des champs de foire, à Delhi. On dresse d'immenses pantins de carton peint, mais des pantins qui font bien 20 mètres de long. Ils sont couronnés et armés, et ils sont généralement noirs et or, avec du rouge quand même. Ces pantins sont bourrés à craquer de feux d'artifice, et le moment venu, on met le feu au pantin qui explose et libère ces feux d'artifice. On pourrait dire aussi que le pantin explose et qu'il est libéré de ces feux d'artifice, en se souvenant que Ravana a choisi de mourir de lui-même. Car ce pantin, c'est Ravana, ce gigantesque pantin de carton peint qui explose à chaque automne, c'est Ravana. Il a 10 têtes et 20 bras. Et en fait, lorsqu'il brûle, ce sont surtout ces 10 têtes bien rangées que l'on voit tomber toutes ensemble au début de l'explosion. Mais j'en ai pas fini avec les exploits du singe divin Hanuman. Il n'est pas seulement l'incarnation du dévouement et de la force absolue. Il a eu assez d'intelligence au moment de la bataille pour pouvoir construire un pont entre le Lanka et le Tamil Nadu. C'est donc un ingénieur extrêmement doué. Quelquefois, dans certaines images, c'est son corps lui-même, démesurément étendu, qui fait le pont. En tout cas, il a l'intelligence qui manque à Bhima, le héros du Mahabharata, également fils du vent. Hanuman est également médecin herboriste. Il parcourt les Himalayas pour soigner les blessés sur le champ de bataille. Et enfin, c'est tout à fait intéressant, Hanuman est également grammairien. Octavio Paz, le grand écrivain mexicain, qui fut ambassadeur en Inde en son temps, a écrit un très joli livre qui s'appelle « Le singe grammairien », où il décrit la solitude nostalgique de la petite vallée de Galta, qui se trouve à 8 km de Jaipur. C'est un endroit que je connais bien et que j'ai souvent visité. C'est une toute petite vallée escarpée, où les pèlerinages sont consacrés aux avatars de Vishnu en général. Dans les avatars de Vishnu, il y a le prince Dieu Ram, et autour de Ram, il y a bien entendu Hanuman. Voilà comment l'on retrouve le singe grammairien dans une petite vallée perdue à 8 km de Jaipur. J'y ai fait une expérience tout à fait curieuse. Un jour de pèlerinage, justement, on faisait la queue, nous faisions tous la queue, et moi j'étais dans la queue, pour aller voir sur l'une de ces petites marches qui conduisait à l'un des multiples temples dans cette petite vallée, un veau à cinq pattes. Le veau à cinq pattes est aussi important que les cinq têtes de Brahma ou les cinq frères Pandava, car le chiffre 5 est très important. La malheureuse bête, qui était un ravissant petit veau blanc, avait en effet ses quatre pattes de veau et une cinquième qu'on lui avait greffée très visiblement au milieu du front. Donc la cinquième patte pendouillait sur le museau de l'animal, c'était très triste. Mais comme c'était dans un jour de pèlerinage, la petite bête était couverte d'un manteau rouge et tout le monde se prosternait devant. Moi, je ne me suis pas prosterné. Mal m'en a pris. Je croyais les hindous extrêmement pieux et polis. Eh bien, pas du tout. Le hindou qui était derrière moi m'a violemment passé le derrière et il a bien fallu que je me prosterne. J'en ai un vif souvenir de ce pèlerinage. Ça donne une petite idée de la violence refoulée qu'il peut y avoir dans les pèlerinages de l'Inde. Car après cet épisode, il y a eu d'autres bousculades non moins vilaines. Hanuman, sans disparaître du Ramayana, cesse d'être le personnage principal lorsque la victoire de Ram est assurée. En revanche, le Ramayana n'est pas fini du tout. Le prince Rama retourne avec son frère et son épouse à Ayodhya. Il reprend ses sandales qui sont toujours sur le trône et que son bon frère Bharata est venu consulter tous les jours pour prendre les instructions quand il assurait la régence. Et on pourrait se dire que tout est bien, qui finit bien. Eh bien justement, pas du tout. Mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Dans les versions populaires, oui, on nous montre le retour triomphal de Rama et Sita dans leur bonne ville, sous des pluies de roses, et tout va bien. C'est ce qui s'est passé dans le feuilleton télé. Je me souviens avoir eu une discussion très intéressante avec le directeur de la télévision nationale d'Ordarshan, un lettré qui connaissait bien les textes authentiques du Ramayana et qui était très ennuyé. Car ça n'était pas la vraie fin du Ramayana, ce happy end amoureux. Mais il me disait, il faut satisfaire à la dévotion populaire tout de même. On adore, dans l'Inde du Nord, Ramasita, seule divinité unique, comme quelquefois on adore Radhakrishna, seule divinité unique, faite d'un homme et d'une femme, Rama et Sita, ou Radha, la maîtresse de Krishna, avec son amant Krishna, accolés l'un à l'autre, et ce sont des images qu'on pourrait dire bifides. On ne va pas casser le mythe du couple amoureux. Ça fonctionne pour Radha et Krishna, on ne va pas briser le mythe de Ramasita, me disait-il. Ben oui, mais malheureusement, ça n'est pas la vérité textuelle. Et la vérité textuelle est tout à fait différente. Elle est horrible. Dès le retour dans la ville d'Ayodhya, la discorde éclate entre les deux époux. Pourquoi ? Ah voilà ! Je vais lire un extrait du texte de Valmiki en précisant que Valmiki est le premier auteur du Ramayana, celui qui l'a écrit en sanskrit. On se souvient que Tulsi Das est celui qui l'a écrit en hindi beaucoup plus tard. Je prends ces extraits dans un livre admirable de Catherine Weinberger-Thomas qui s'appelle « Cendres d'immortalité ». Et je lis. Dans le Ramayana de Valmiki, Rama accueille son épouse reconquise par de cruelles paroles de répudiation. Un doute plane sur ta conduite, et ta présence devant moi m'offusque aussi fort qu'une lampe devant un œil malade. Désormais, va-t'en où bon te semblera. Je te congédie, ô fille de Janaka. Je n'ai plus affaire avec toi. Une femme qui séjourna dans la maison d'un autre, quel homme d'honneur et de bonne famille se laisserait égarer par la passion au point de la reprendre? Ravana t'a souillé en te pressant contre son sein et en jetant sur toi des regards lascifs. Comment te reprendrai-je, moi qui me réclame d'une race illustre? Bouleversée, Sita proteste de son innocence, puis elle demande au jeune frère de son mari, Lakshmana, de lui dresser un bûcher, seul remède à ses maux. Baissant la tête sous l'opprobre, Sita fait alors trois fois le tour de Rama, le tenant à sa droite, en signe de dévotion, avant de pénétrer dans le brasier en invoquant le dieu du feu, Agni. Et elle parle. « Comme mon cœur jamais ne se détacha de Rama, qu'ainsi le spectateur de l'univers m'accorde son entière protection. » Le spectateur de l'univers, c'est le dieu du feu. « Comme je suis de mœurs pures, et bien que Rama me croie souillé, qu'ainsi le spectateur de l'univers m'accorde son entière protection. » Agni rend à Rama son épouse en se portant garant de sa pureté, et Rama l'accepte alors, puisque sa chasteté a triomphé de l'épreuve du feu. On voit bien qu'il s'agit d'une ordalie de type médiéval. On trouve dans le cycle du Graal ou dans les légendes celtiques de multiples ordalies du même genre. C'est toujours à la femme que ça s'adresse, et c'est toujours la chasteté qu'il s'agit de prouver. Et Iseut elle-même a réussi à ruser dans une ordalie du même genre, dans le roman des Tristan et Iseut, lorsque elle jure qu'elle n'a jamais couché qu'avec le roi Arthur et l'homme qui la porte dans ses bras. Il se trouve que Tristan s'est déguisé en mendiant lépreux, donc personne n'y fait attention. Pour ne pas gâcher la fête, et je vais revenir très longuement sur ce gâchis épouvantable, Tulsidas, donc l'auteur du Ramayana en hindi, a un peu truqué la donne. Il a inventé que Rama a prévenu Sita tout à fait au début de leur exil, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore dans l'enlèvement de Sita. Rama a prévenu sa femme qu'il va se passer des choses désagréables et qu'il va donc produire une image de Sita fausse, une sorte de statue de Sita, une sorte de fiction, et qu'il va mettre sa femme à l'abri quelque part dans la forêt. Tout ce qui arrive donc à Sita, l'enlèvement par le démon, le confinement dans le gynécée du démon, la séduction manquée du démon, tout cela n'arrive pas à la vraie Sita qui est bien à l'abri, mais à son image fictive. De sorte que, lorsque les époux se retrouvent, Rama n'a plus qu'à bazarder, si j'ose dire, l'image fictive et retrouver sa femme et tout va bien. Ainsi, la formule sacrée, celle dont j'ai parlé en disant qu'on disait Rama Sita, et dont Catherine Weinberger-Thomas dans ce livre dit que c'est plutôt une formule mystique du type Sita Rama, mais ça revient au même, une formule mystique qui est égrenée de façon quasiment incantatoire, cette formule du rapport parfait entre les deux époux se trouvera protégée. Comme nous le verrons plus tard, il n'en est rien. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est la nature du refuge où Rama a mis sa femme à l'abri pendant que va se dérouler l'essentiel du Ramayana.